Radio Galère, 88.4 de la bande FM marseillaise, DAB+. L'histoire continue et permanente, une émission d'Éric Lebreux. Mémoire de militant, Jacques Jourquet, du maquis au maoïsme. Deuxième partie, 1921-1935, une enfance et une jeunesse marquées par la politique.
Effectivement, je suis né à Marseille, rue des Bons Enfants, le 2 avril 1922. Mais je dois dire tout de suite, pour répondre à ta question, que je n'ai pas vécu longtemps à Marseille. J'ai vécu à Marseille par intermittence. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que mon père, qui revenant de Verdun avait aussi subi quelques gaz asphyxiants, était nommé professeur au collège de Fontainebleau, près de Paris. Avec cette magnifique forêt, ce qui lui permettait de retrouver un climat plus propice que le climat humide de Marseille pour ses poumons. Alors ça fait qu'à l'âge de 6 mois, et il est évident que je ne m'en souviens pas, je me suis retrouvé à Fontainebleau avec mes parents dans son poste de mon père exerçant les fonctions de prof au collège Carnot. En fait, il se trouve que j'ai quand même vécu à Marseille parce que toutes les vacances, quelles qu'elles soient, les vacances de Noël, les vacances de Pâques et les grandes vacances, nous descendions, on prenait le train à la gare de Lyon à Paris. Ça durait des heures, beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui avec les TGV, plus du double. Et nous nous retrouvions à Marseille en famille, puisque nous avions les deux familles des grands-parents. Mes grands-parents Jourquet habitaient dans la rue Nau, près de la Plaine, et mes grands-parents Guèche habitaient donc 11 rue de Lodi, où mon grand-père était le pharmacien de l'assistance publique. Et ça, c'est très important, nous allons y revenir. Donc, il y a une partie de ma vie qui se passe à Fontainebleau, à l'école maternelle où j'attrape des poux et où ma mère ne m'en remettra pas après m'avoir rasé la tête et n'est sans doute enlevé toutes les lentes et tout ce qu'il fallait. Mais là, c'est encore tout petit. Mais après, à Fontainebleau, je vais rentrer quand même au collège en classe maternelle, puis en classe de primaire, quoi, avant d'arriver plus tard en sixième. Je dois dire que, parlons un peu de cette enfance à Fontainebleau. Eh bien, quand je commence à aller à l'école, je suis au milieu d'enfants d'officiers et d'enfants de nobles. Fontainebleau était une ville caractérisée par une population issue, descendante de la noblesse, une population qui n'était pas qu'une noblesse pauvre, mais il y avait aussi des nobles qui étaient encore assez aisés et riches, dont les descendants occupaient à Paris des postes de PDG de différentes sociétés et autres. Et il y avait à Fontainebleau, je pense que ça existe encore aujourd'hui en 1995, l'école d'application des officiers d'artillerie et de cavalerie aussi, hein. Je parle des blindés, mais la cavalerie proprement dite, alors avec le cadre noir notamment. Et tous mes camarades de classe, eh ben, c'était des enfants de nobles ou des enfants d'officiers. Je dois dire d'ailleurs que parmi mes condisciples, il y en a quelques-uns dont je me souviens en m'efforçant de retrouver ça dans ma mémoire, mais qui étaient des enfants de personnalités importantes. Je me suis retrouvé en classe avec un petit-fils du grand peintre Renoir. Il me semble bien qu'il s'appelait Alain Renoir. Il avait quand même une caractéristique, c'est qu'il était rouquin, très très rouquin, avec des yeux clairs, et beaucoup d'enfants n'étaient pas gentils avec lui. Je ne sais pas si c'était un fils de Pierre ou de Jean Renoir, mais c'était un fils d'un de ces deux, de metteur en scène ou artiste. Et je me suis retrouvé également avec un garçon qui par la suite a fait un peu parler de lui après 45, mais pas de manière très très positive, je crois. Je ne parle pas politique, je parle du point de vue simplement social. Il a dû être arrêté, accusé de je ne sais quoi, parce qu'il était steward dans l'aviation. Et c'était un petit-fils de Tolstoï. J'ai été avec ce petit-fils de Tolstoï qui, suivant les souvenirs visuels que je peux en avoir et les photographies que j'ai vues de son grand-père, ressemblait étrangement à son grand-père, la même tête. Et puis j'étais au milieu d'enfants, d'officiers, y compris britanniques, mais enfin en fait j'étais avec les Grégorians. Les Grégorians étaient les fils d'un officier britannique et d'une mère persane, c'était des Perses. En fait, aujourd'hui, on appelle ça les Iraniens. Et bon, j'étais avec cela. Et puis, je vais grandir là-bas, je vais me retrouver, mais là, je serai déjà plus grand, j'aurai déjà 13-14 ans, je vais me retrouver au lycée de Fontainebleau avec Paul Auriol. Et Paul Auriol n'est autre que le fils du futur président de la République française d'après 45, Vincent Auriol. Et avec Paul Auriol, devant la situation que les enfants d'officiers et les enfants de nobles font à nos camarades de classe, nos copains, dont les familles sont des familles juives, je parle de 1935, 34-35, tous ces jeunes étant camelots du roi et traitant les autres de sales juifs, de sales youpins, etc. Avec Paul Auriol, je participe, mais je suis jeune, moi, lui, il a 4 ou 5 ans de plus que moi, nous participons à la création de la LICA au collège. La LICA étant la Ligue internationale contre l'antisémitisme. Et tous nos autres camarades sont tous des noms dont je me souviens des noms de quelques-uns, Okonowski, Markowitz, Dreyfus, bon c'était des juifs. Et tragiquement, malheureusement, quand je repasse à Fontainebleau actuellement, je vais toujours me recueillir devant le monument aux morts qui est au boulevard circulaire tout en haut de Fontainebleau, à côté du grand cimetière chrétien qu'il y a. Et sur ce monument aux morts, je retrouve souvent les noms de mes copains, de mes condisciples qui ont été déportés et gazés à Auschwitz ou assassinés par la Gestapo et les nazis. Mais revenons à Marseille. Il se trouve que vers l'âge de 4 ou 5 ans, on va diagnostiquer une mauvaise croissance et qu'on va considérer que je fais un peu de rachitisme, tout ça. Et on va, par conséquent, mes parents vont me laisser pendant un an, au bon soin de ma grand-mère et de mon grand-père maternel, ce qui ne m'empêchera pas de voir la branche paternelle aussi. Et à cette occasion, ma grand-mère, qui a déjà un bel âge, parce qu'elle va mourir à 89 ans, je ne sais plus en quelle année exactement, enfin, elle a plus de 70 ans dès cette époque-là, elle va m'emmener tous les jours faire des bains de mer à la Pointe-Rouge. Donc il fallait descendre depuis la rue de Lodi, par la rue des Bergers et le cours Salvator jusqu'à la préfecture, prendre un trolley, changer de trolley, je ne me rappelle plus très bien où, et on faisait un peu de corniche ou de prado, je ne me rappelle plus exactement. Enfin, c'était une expédition extraordinaire. Et ma grand-mère se dépensait sans compter pour cet enfant qui, au fond, remplaçait un peu dans son cœur le fils qui lui avait été ravi à Verdun par la guerre. Et indépendamment de cela, bon, j'étais mieux rue de Lodi parce qu'il y avait un très grand jardin. Hein, puis enfin bon, j'étais mieux qu'à la Runeau avec les autres grands-parents parce que mon grand-père était un passionné de philatélie. Alors il m'apprenait la philatélie et je m'y connais toujours en philatélie. C'est mon fils aîné d'ailleurs qui a la grande collection du grand-père qui était très précieuse. Et puis dans la pharmacie aussi, quelquefois, pour me faire gagner quelques piécettes, il me faisait fabriquer des cachets d'aspirine avec un appareil spécial des boîtes en bois là, et puis il me les faisait mettre, et puis alors il me comptait le nombre de bois, il me donnait un sou, je sais pas quelle somme, mais tant par boîte, ce qui fait qu'après je pouvais lui dire, bah, accompagne-moi pour m'acheter un illustré de Zigoupus ou de Bicot, Fricotin, enfin ces choses là qui étaient et puis quand j'étais un peu plus grand, alors je passais à Buffalo Bill, à Sherlock Holmes, c'était comme ça. Et voilà, mais je veux raconter quelque chose d'intéressant, c'est que dans la pharmacie de l'assistance publique de mon grand-père passaient fréquemment des pères blancs, c'est-à-dire ces prêtres qui allaient dans les colonies. Et ils venaient chez mon grand-père chercher des médicaments pour emporter avec eux dans les colonies. Et j'étais toujours très impressionné par ces hommes qui marchaient avec des sandales, les pieds nus dans les sandales, qui avaient des gandouras toutes blanches, et puis une croix de bois, il me semble, en bois sur la poitrine. Et venaient également, alors il y avait toujours des petites controverses auxquelles évidemment l'enfant que j'étais ne comprenait pas grand-chose, mais il s'entretenait avec mon grand-père. Et puis venaient aussi des religieuses, mais qui étaient beaucoup plus réservées. Elles venaient aussi chercher des médicaments, mais c'était pour des œuvres philanthropiques sur Marseille. Et ces religieuses, je me suis exactement à quel ordre elles pouvaient appartenir. Elles étaient habillées en bleu, elles avaient des cornettes, et sur la poitrine, elles avaient une immense croix, très très large, en tissu, recousu dessus, rouge et bleu. Je ne sais pas quel ordre ça pouvait être, mais je sais que mon grand-père avait un grand respect, il leur faisait préparer toujours des paquets dans des cartons, et elles emportaient ça. Alors, de l'autre côté, mon autre grand-père, il venait me balader aussi de temps en temps, parce qu'il m'aimait, c'était tout à fait naturel. Là, je parle du grand-père bouffe-curé, parce que je ne peux pas l'appeler autrement, c'était un bouffe-curé celui-là, et je l'adorais aussi, et il venait me faire des promenades, alors dans le centre de Marseille. Alors comment je voyais Marseille? Ben Marseille, d'abord il y avait un premier endroit que je voyais souvent le matin en allant faire des commissions, c'était le département qui est à côté de l'église Notre-Dame du Mont et de tout ce coin-là, qui aujourd'hui est le cours Julien. Et sur le cours Julien, je voyais le débarquement des melons, des pastèques, des fruits, et les gens, les manutentionnaires qui faisaient ça, parlaient en général des langues auxquelles je ne comprenais rien du tout. Je pense aujourd'hui qu'ils parlaient en italien, en espagnol, et probablement aussi en provençal. Et ils montaient des pyramides. Ils me faisaient des pyramides sur par terre que les détaillants venaient détruire en achetant leur quantité nécessaire de fruits. Et j'étais toujours très impressionné parce que c'était très coloré. Puis en général, il faisait beau temps, comme à Marseille. Peut-être j'y allais pas très souvent en plein hiver, mais j'y allais plutôt au printemps et à l'été. Et alors j'étais émerveillé. Et mon autre grand-père, donc, il me faisait promener et il m'emmenait souvent. Alors ça, c'est des choses dont le souvenir reste absolu dans ma mémoire. Il m'emmenait au ce qu'on appelle aujourd'hui le cours d'Estiendorf, parce que là, il y avait un canal, le vieux canal, qui a dû disparaître, je ne sais pas moi, les historiens de Marseille doivent le savoir, le savent mieux que moi, en 1927-28 par là. Et ce vieux canal, je l'ai vu, j'admirais les pêcheurs, il y avait beaucoup de pêcheurs à la ligne là, qui attrapaient des tout petits poissons, qu'on appelle je crois des garis ou des gobies, je ne sais pas exactement. Enfin, j'étais en émerveillement devant ce... Mais le souvenir que j'en ai, c'est que quand même, ce vieux canal, c'était une eau assez putride, assez nauséabonde, et ça puait, ça sentait pas très bon. Voilà l'impression que j'ai, peut-être je me trompe, mais il me semble bien que c'était ainsi. Alors on suivait le vieux canal, tout au bout là-bas, au fond du cours d'Estiendorf, il me semble, j'en suis pas absolument sûr, il me semble qu'il y avait une belle passerelle, une passerelle avec des rampes, on traversait avec la passerelle et on se retrouvait alors sur le vieux port, enfin de ce côté-là, je sais pas, c'est le quai des Belges ou le quai de Rive-Neuve, je sais plus, celui où il y a le théâtre de la Criée, et on se retrouvait là-bas. Alors mon grand-père, quand il était de bon pied, parce qu'il avait quand même 70 ans au moins à ce moment-là, l'âge que j'ai aujourd'hui maintenant, même un peu plus, il me disait, ben viens, on va aller passer. Comme il avait été agent des contributions indirectes à Marseille, c'était son dernier poste avant sa retraite, il avait la gratuité du passage sur le pont transbordeur. Alors, il m'emmenait au pont transbordeur qui excitait ma curiosité et mon émerveillement. Et on attendait, on passait avec les voitures, les gens, des voitures pas seulement avec des moteurs, mais aussi des voitures tirées par des chevaux ou par des ânes, et on passait de l'autre côté. De l'autre côté, on arrivait donc, je pense, c'est le fort Saint-Jean, hein, on arrivait de l'autre côté, et puis de l'autre côté, ils me faisaient revenir à pied tout le long du quai, et arrivé à un certain endroit, on prenait alors ces espèces de bateaux un peu plats qui existent toujours aujourd'hui d'ailleurs, les ferryboats. Et avec le ferryboat, on revenait, on traversait, on revenait de l'autre côté, et puis on remontait à la maison. Quand j'arrivais, j'étais sur les genoux. Cependant, avant de me quitter, ce grand-père me payait toujours chez un boulanger ce qu'on appelait des S. Les S, je ne sais pas si ça existe toujours, c'était des espèces de gâteaux secs, avec un peu caramélisé et avec du sucre. Et alors, j'étais heureux comme pas un d'avoir mangé des S, et je rentrais dans mon havre bien-aimé, qui était le jardin et la maison de la rue de Lodi.
Quatre coins du monde, indiscutablement, on aime sa faconde et ses mille défauts charmants. Elle a la grâce brune des filles du midi, il n'en existe qu'une, voilà pourquoi chez nous l'on dit. On connaît dans chaque hémisphère notre canne-canne-canne-pierre, et partout elle est populaire, notre canne-canne-canne-canne-bière. Elle part du vieux port, expanse et fort, coquette de sort, elle exagère. Elle finit au bout de la terre, notre canne-canne-canne-canne-bière. Comment vous la décrire, son charme est sans pareil, joyeuse elle s'étire comme un lézard au soleil. Internationale, pour l'amour trondelaire, elle est la capitale des marins de l'univers. On connaît dans chaque hémisphère notre canne-canne-canne-canne-bière. Et partout, elle est populaire, notre canne-canne-canne-canne-bière. Elle parle du vieux port et sans effort, aucun de sort, elle exagère. Elle finit au bout de la terre, notre canne-canne-canne-canne-bière. Il est né sur la canne-bière, il est né le dit tout enfant, il est né du Grand Saint-Jean.
En ce qui concerne mon éducation scolaire, elle précède naturellement ma formation politique. Cependant, c'est vrai que ma formation politique commence très jeune. Pour une raison toute simple, c'est que mon père est militant socialiste SFIO à Fontainebleau, il est professeur. En même temps que moi, je suis un jeune élève, je crois que je rentre en sixième au collège Jules Carnot en 1933. Pense, oui. Bon, l'éducation scolaire, à ce moment-là, elle suit son rythme normal. Moi, je fais du latin, puis de l'allemand. Hein. Mon père a tenu à ce que je fasse l'allemand parce qu'il est pacifiste, vraiment très intégral, et il veut que j'apprenne justement la langue de l'ennemi, du peuple qu'il a combattu en 14-18. Je ne suis pas politisé immédiatement. Cependant, ce qui arrive, si j'ai dit que je rentre en 6e en 1933, je suis donc en février 34, mais je dois être encore en 6e, et oui, c'est l'année scolaire. Et il y a les événements du 6 février 34. Alors certes, je suis très jeune, j'entends parler mes parents, et il se trouve que j'ai pour professeur d'allemand M. René Perrin, que j'aime énormément parce qu'il est très vivant, il est très pédagogue. Enfin, j'en suis pas conscient à ce moment-là, c'est moi qui porte ce jugement aujourd'hui. Mais je pense que c'était un excellent professeur et qui savait se faire aimer des enfants que nous étions. Je l'aime beaucoup, et le 6, donc le 7 février, M. Perrin est absent toute la journée. J'entends mes parents qui parlent de ces événements, et également quand je fais la route jusqu'au collège, par la rue Béranger, la rue de la Cloche, jusque pour arriver au collège, avec mes copains Guillet, je les entends parler et nous parlons des événements de la veille qui se sont produits à Paris. Ce sont les événements, ce sont les émeutes que je qualifie aujourd'hui de fascistes, les émeutes des ligues factieuses, Croix de Feu, Jeunesse Patriote, etc., Camelot du Roi, Action Française. Ce sont les émeutes du 6 février 1934 avec tentative de prise de la Chambre des députés par tous ces gens-là, qui crient à bas les métèques, à bas les juifs, qui ont leur mot d'ordre fasciste et raciste. Or, mes deux copains, les frères Guillet, dont le père est officier, j'ai déjà dit qu'à Fontainebleau, énormément de mes condisciples sont des fils d'officiers, puisque Fontainebleau est une garnison et une école d'application d'artillerie, en même temps que, à l'époque, l'école du cadre noir, qui est à Saumur, je pense, ultérieurement, pour la cavalerie. Je les entends qui parlent, qui disent, oui, ils prennent tout à fait le parti du père qu'ils ont entendu discuter avec la mère et qui s'est certainement félicité chaudement à la maison de ces manifestations extrêmement violentes qui ont eu lieu la veille à Paris. Je suis sensibilisé par ces événements. Je me souviens que c'est une époque où dans les rues de Fontainebleau, il y a la glace dans les ruisseaux. Il y a l'eau qui coule dans les ruisseaux, mais il fait tellement froid qu'elle est glacée. Et que nous nous amusons en même temps qu'on discute avec chaleur dans ce froid glacial, on s'amuse à marcher sur les couches de glace pour entendre nos gros souliers faire craquer cette glace. Je me souviens de ces détails. On s'amusait à marcher comme ça, mais on discutait âprement sur ces événements dont au fond on ne connaissait pas grand chose. Mais là où intervient M. René Perrin, notre professeur d'allemand, c'est que le lendemain, alors quand il revient au collège, le lendemain, il nous raconte ce qui s'est passé, ce qu'il a vécu. M. René Perrin est un ami professeur de mon père, mais en même temps il est aussi membre du parti socialiste SFIO, ce qui fait qu'ils sont très rapprochés l'un de l'autre. Et Perrin est très gentil avec moi, je suis le fils d'un collègue, enfin tout ça. Je ne dis pas qu'il me pistonne, c'est pas de ça que je veux parler, mais je veux dire qu'il y a un sentiment de sollicitude et d'affection vis-à-vis de moi. Et il raconte devant moi et devant mes condisciples, il raconte un petit peu le 6 février. Le 6 février,
Lui, personnellement, il s'est pas trop avancé dans parmi les contre-manifestants, qui ont été d'ailleurs assez peu nombreux, le 6. Ils le sont beaucoup plus le 9 et le 12 février. Alors là, il y aura une contre-offensive considérable. Mais il raconte ce qui est arrivé à son propre beau-frère. Son beau-frère, il est marié avec une avocate, M. Perrin, une avocate de Paris. Il fait le voyage d'ailleurs tous les jours de Paris à Fontainebleau et de Fontainebleau à Paris le soir. Et cette avocate a pour frère un jeune membre militant actif des jeunesses communistes. Et lui, ce jeune Altmann, ce sont des juifs émigrés de Pologne, je ne sais quel pays exactement. Ce jeune a été à la contre-manifestation dès le 6 février et il a été violemment frappé, battu. Je ne sais même pas s'il n'a pas été arrêté par la police. Enfin, disons que la relation de ces événements fait que dès cet âge-là, je vais avoir 12 ans un mois ou deux mois après, à peine, je suis très sensibilisé par des événements politiques. C'est-à-dire que mon éducation scolaire, d'une part, et mon éducation politique, d'autre part, et familiale, vont de pair. Les choses avancent lentement, naturellement, on ne me bourre pas la tête absolument. Cependant, je dois dire que dans ces périodes-là, déjà, mon père suit les campagnes électorales du parti pour son parti, le Parti Socialiste, et que quelquefois, il m'emmène avec lui pour visiter les bureaux de vote. Alors, évidemment, là, je fais mon éducation civique, en quelque sorte. À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les bulletins. Est-ce qu'il y en a suffisamment? Il n'y en a pas suffisamment. Ça, c'est l'urne, les présidences de bureaux, les bureaux de scrutin, enfin, toutes ces choses-là. Tout jeune, je commence à avoir un peu une connaissance de ces questions-là. J'ajoute que je ne sais plus si c'est bien dans cette période ou un peu, c'est peut-être un peu avant parce que les historiens le préciseront beaucoup plus facilement que moi, mais j'ai quand même un souvenir qui a un caractère politique, mais qui ne devient pas un sujet de réflexion, mais j'en ai quand même le souvenir dans ma tête, c'est qu'un beau jour, mon père me dit « Ah ben, on va aller voir Trotsky ». Ah ça, par exemple, Trotsky, pour moi, c'est un nom de consonance russe ou polonaise. Et effectivement, mon père, c'est pour ça que je dis que, je sais pas la date, c'est certainement bien avant, parce que mon père m'emmène sur une petite selle qui est fixée sur le cadre de son vélo, et il m'emmène à Barbizon. Et à Barbizon, nous arrivons devant une espèce de résidence qui me semble, dans mon souvenir, dans ma mémoire, être un château, un grand château, avec des portes et des murs avec des barres en fer forgé, très importantes. Et là, nous trouvons d'un côté beaucoup de journalistes, de la police aussi, et de l'autre côté, un ou deux, ou enfin quelques gens qui ne parlent pas français, qui sont des Russes, et un ou plusieurs, alors là je peux pas préciser, chiens de garde qui montrent les crocs qui sont là derrière. Et mon père apprend à ce moment-là que la personne qu'il voulait apercevoir, parce qu'il n'avait pas de rendez-vous fixé à l'avance, mais il voulait le voir parce que c'est une personnalité qui avait fait partie des bolcheviks, etc., de 1917, et mon père voulait le voir, et il s'appelait Trotsky donc, et ce Trotsky s'était enfui de cet endroit la veille ou l'avant-veille. L'historien que tu es, Eric, pourra peut-être préciser les dates, mais enfin voilà. À 24 heures près, je n'ai pas vu la personne de Trotsky étant tout enfant, bien entendu.
Il faut préciser que Léon Trotsky, qui était en opposition avec Staline, a été expulsé de l'Union soviétique le 18 janvier 1929. Il est d'abord exilé sur l'île de Principo en Turquie. Il va rester jusqu'en juillet 1933. Puis, la même année, le gouvernement Daladier va lui accorder l'asile politique. Il va d'abord séjourner à Royan, sur la côte atlantique, de juillet à septembre 1933. Puis, à partir de septembre 1933, il va s'installer à Barbizon, où il va rester jusqu'en juillet 1934. C'est à ce moment-là que le père du Jourquet et Jourquet lui-même vont tenter de le voir, mais uniquement le lendemain après son départ, puisqu'il va partir à Domaine, près de Grenoble, où il va rester jusqu'en juillet 1935. À partir de cette date-là, Laval, qui était à ce moment-là en train de faire une politique de rapprochement avec l'Union soviétique, va ordonner son expulsion. Trotsky va s'installer d'abord en Norvège jusqu'en décembre 1936. C'est à ce moment-là qu'il va germer l'idée pour lui de créer la 4e internationale. Et à partir de 1936-37, président du Mexique, Lázaro Cárdenas va lui accorder l'exil politique. Il sera accueilli par Diego Rivera et Frida Kahlo. Et il va s'installer à Mexico dans le quartier de Coyoacán. Et il va être assassiné le 20 août 1940 par un agent de Staline dénommé Ramón Mercader. Voilà pour ce qui concerne ce que Jacques Jourquet a failli rencontrer.
ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. De mon passé.
C'était l'Histoire continue et permanente, une émission proposée et animée par Éric Lebreux sur les ondes de Radio Galère 88.4 de la bande FM DAB+. Émission que vous pouvez réécouter et télécharger en podcast sur le site de Radio Galère.